En une minute, en une phrase même, une phrase, qu'est-ce que les étudiantes, devraient retenir de la campagne du soutien? Il y en a pour toi. Je commence avec Marc-Antoine, on va finir avec Louis-Bert.
De comprendre que la situation qui est présente, et ce même avant la pandémie, mais qui est présente encore de manière plus exacerbée par la pandémie, c'est que tout le monde veut pas ressent une certaine forme de détresse, puis de pas avoir peur d'aller parler avec quelqu'un, d'aller s'exprimer, parce qu'on peut remarquer que plusieurs personnes qui vont être dans la même situation ou qui vont avoir des situations similaires. Je pense que la normalisation de la demande d'aide, la normalisation de la situation de la détresse psychologique à la communauté étudiante, c'est selon moi la chose qui est la plus qui vient me parler le plus, puis que j'espère que la campagne qui vient de se déployer va avoir le plus grand effet à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Louis-Bert.
Ah, c'est nous aurons besoin de la collaboration de tous et de toutes. C'est une campagne qui est faite par des étudiants et pour des étudiants. C'est une campagne, et d'abord le ton est le tue. On tutoie dans la campagne et globalement, donc il n'y a pas de distance et il faut s'en accaparer. Et on a besoin de tous, des étudiantes et étudiants de l'Université Laval, pour faire avancer la campagne. Et si tu vois une affiche et ce qui est écrit te parle, eh ben, tu peux te prendre en photo et puis le publier sur les réseaux sociaux. Ça fait avancer la campagne. Ou publier sur tes réseaux, de parler à un de tes cours, de parler à un de tes proches, à un autre étudiant et étudiante, et au niveau de l'Université Laval. Donc, on a besoin de vous. La campagne est vraiment pour vous.
Merci beaucoup, Louis-Bert Meilleur, Marc-Antoine Tourville. Et ça a fait vraiment un excellent plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. C'était Guillaume Bédard pour cette entrevue spéciale sur les ondes de CHIZ 94.3.
Vous écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Réveilleurs and chow, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec CHIZ 94.3.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de CHIZ 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog n'aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à CHIZ 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de CHIZ 94.3. On écoutait ma douce voix qui passait en entrevue Marc-Antoine Tourville et Louis-Bert Meilleur. On parlait de santé mentale parce qu'il y a eu justement cette grande annonce de la part de la CADEL et de l'Allier. La campagne du soutien, il y en a pour toi. Donc, si ça vous intéresse, allez sur le campus. Il y a des affiches qui vont vous rediriger vers un site web qui est très, très, très intéressant. C'est Guillaume Bédard qui est au micro avec vous pour Un fort dans le midi. Il est présentement midi, justement, en ce lundi 18 octobre 2021. Il fait 8 degrés dehors et j'ai le plaisir, l'honneur et l'incroyable chance d'être en compagnie de Félix Etienne. Bonjour Félix.
Bonjour Guillaume.
Comment tu vas bien aujourd'hui?
Ça va bien, c'est la mi-session, ça commence à rentrer dedans, mais bon, comme tout, comme la plupart de nos auditeurs et nos auditrices, on arrive à survivre la plupart du temps, bien sûr.
Oui, on essaie quand même de survivre comme il faut, mais faut prendre soin de sa santé mentale un petit peu. on va quand même prendre le temps de vous faire un petit tour de l'actualité, vous faire votre petit topo quotidien. C'est à ça qu'on sert. Hein? À Hereford dans le midi, votre quotidien d'actualité. On va parler, bien sûr, des développements de la COVID-19, du système de santé au Québec. On va parler d'économie également. On a plusieurs articles à mettre ensemble, à mettre en lien pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a, entre autres, des si grandes hausses des prix à la pompe, des prix de l'électricité. Donc, c'est sûr qu'on va vous parler de ça. On va vous parler également de nouvelles municipales. On est encore en pleine campagne électorale municipale. C'est tripant rare, je vous jure. On va parler également un petit peu de politique provinciale, fédérale et internationale. On a plusieurs choses à dire. Entre autres, un référendum en Alberta qui nous concerne beaucoup et pas juste parce qu'il parle de changement d'heure. Mais avant toute chose, on va commencer comme il se doit en chansons et en musique. On va aller écouter Thierry Larose avec sa chanson Cantalou. Vous écoutez toujours un phare dans le midi sur les ondes de Chiz 94.3.
Pourquoi est-ce que la circulation coupe à tes jambes? Pourquoi t'es toujours peur que je me tanne? Cantalou! Pourquoi est-ce que tu dis pas le cœur? Faut que j'aille. Pourquoi tu fais toujours trop de podcast? L'autre soir, tu offrais tes condoléances à tous les humains de l'existence. Tu dis qu'on n'est jamais trop d'avance. Cantalou, ouais, je sais pas pourquoi les gens ils font ce qu'ils font. Toi tu sais pourquoi les choses sont comme elles sont. Mais de moi non plus, je pleure jamais voyant mon temps. Pourquoi tu me demandes ça?
Toujours à l'antenne de Chiz 94.3 pour Un Fort dans le midi avec Guillaume Bédard en compagnie de Félix Etienne. Et on commence directement avec les nouveaux chiffres de la COVID-19. Comme c'est notre habitude, Félix, tu as sorti ces chiffres-là pour nous aujourd'hui.
Oui, effectivement. Donc, en date du... c'est les chiffres qui sont du 17 octobre, donc hier, mais qui sont publiés aujourd'hui. On a 410 nouveaux cas de COVID-19 qui sont confirmés. Il y a 5 nouveaux décès et pour ce qui est des hospitalisations, le nombre total de personnes hospitalisées, c'est à 303, donc c'est complètement stable. Il y en a, par contre, 226 qui ne sont pas aux soins intensifs, donc une personne de moins qu'hier, et 77 sont aux soins intensifs, donc une personne de plus. Et si on regarde parmi les nouveaux cas, parmi les 410 nouveaux cas de COVID, on doit le rappeler, 255 de ces nouveaux cas, donc la nette majorité, sont parmi des personnes qui n'avaient reçu aucune dose de vaccin, et 16 parmi les personnes qui n'avaient reçu que leur première dose. Et pour ce qui est des nouvelles hospitalisations du jour, encore une fois, la majorité des nouvelles hospitalisations, on parle de 11 hospitalisations, c'était parmi des personnes qui n'avaient pas reçu de vaccin et une autre que c'était une personne qui n'avait reçu que la première dose de vaccin. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que selon ces données-là de l'INSPQ, une personne qui n'est pas vaccinée au Québec est environ 7 fois plus à risque d'attraper la COVID qu'une personne qui a reçu 2 doses et court un risque d'hospitalisation environ 22 fois plus élevé.
Effectivement, parce que même si il y a une majorité de personnes qui ne sont pas vaccinées, qui font une majorité de personnes qui attrapent la COVID qui ne sont pas vaccinées, et on se rappelle que le monde qui sont pas vaccinés là, ça représente uniquement une minorité de plus en plus petite qu'au Québec. On parle de moins de 20% de la population.
Effectivement, si on regarde les chiffres en proportion de la population totale, c'est 79% des Québécoises et des Québécois qui ont reçu au moins une dose de vaccin et 76% qui sont complètement vaccinés. Et si on exclut les moins de 12 ans qui ne sont pas éligibles à la vaccination, donc si on prend seulement la population qui est éligible au vaccin, c'est plus de 90% qui ont reçu au moins une dose et 87% qui ont reçu les deux doses.
Oui, donc d'avoir ces gens-là, cette petite minorité de la population qui prend la majorité de la place dans le système de santé, on s'entend, c'est quand même quelque chose d'énorme.
Effectivement, et c'est un débat qui se prolonge depuis la semaine dernière, jusqu'à quel point on doit aller pour forcer la vaccination des gens. Bien sûr, il y a le passeport vaccinal qui est un moyen, disons, fortement incitatif pour se faire vacciner, mais également, il y a eu ce fameux débat la semaine dernière quant à la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Et donc, si on se rappelle, la semaine dernière, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, avait été obligé de battre en retraite sur sa volonté d'imposer la vaccination à tous les travailleurs et travailleuses du système de santé. Mais on n'oublie pas, il a dit que le 15 novembre, c'était la nouvelle date butoir. Est-ce que cette fois-là, est-ce qu'il va se passer la même chose le 15 novembre prochain? Eh bien, c'est l'évolution de la pandémie qui va pas mal nous dire comment ça va se passer, j'ai l'impression.
Effectivement, parce que déjà, ce premier volte-face a beaucoup mis à mal sa crédibilité. C'est pour ça, entre autres, qu'on va suivre ça avec un très, très grand intérêt. On va passer, on reste en pandémie, en COVID-19. On a des articles qui parlent des tests rapides à l'école primaire qui peuvent être utilisés de manière efficace pour dépister les cas de COVID-19. On sait que la majorité des éclosions présentement actives sur le territoire du Québec et même dans la capitale nationale également se trouvent dans les établissements d'enseignement primaire.
Effectivement, parce que c'est le seul endroit où on concentre des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, c'est pour ça que les tests rapides, effectivement, c'est... En fait, il faut comprendre que les tests rapides, c'est des tests qui vont donner un résultat en une vingtaine de minutes environ. Ces tests rapides sont, oui, peut-être un peu moins précis que les tests PCR, donc les tests de polymerase chain reaction, ça c'est le terme scientifique, on dit PCR parce que c'est plus simple, mais par contre, test PCR, ça doit être analysé en laboratoire et ça prend plusieurs heures avant qu'on sorte le résultat, de plusieurs heures à plusieurs jours, tout dépendant de la demande pour le dépistage. Mais justement, l'efficacité des tests rapides, c'est qu'on peut les déployer beaucoup plus rapidement et surtout, on n'a pas besoin de les envoyer en laboratoire. Donc concrètement, l'avantage que ça a, c'est que si par exemple des élèves se lèvent le matin avec un mal de gorge ou avec le nez qui coule, ben on peut simplement administrer un test rapide plutôt que de faire manquer une demi-journée, voire une journée complète d'école à l'enfant.
Effectivement, surtout quand on sait que les tests rapides n'ont pas besoin d'être nécessairement administrés par des infirmières, des infirmiers, du personnel de la santé qualifié. On a ici un article du Soleil, d'Émilie Pelletier dans le Soleil, qui nous dit que dans des écoles, il y a simplement des secrétaires, des adjointes administratives ou des professeurs qui ont reçu une formation vidéo sur comment administrer ces tests rapides-là, et c'est satisfaisant pour le centre de service scolaire. Par contre, ce qui est dénoncé dans cet article-là, c'est que plusieurs parents utilisent ces tests rapides-là qui sont disponibles, qui sont essentiellement une solution de rechange comme échappatoire pour envoyer leur enfant à l'école même s'il a des symptômes de la COVID-19 en se disant, ben si c'est trop grave, ils vont le spotter, ils vont le dépister, moi je vais pas manquer de travail pour rien.
Mais par contre, il faut le dire que c'est sûr qu'on pense à ça. Si, par exemple, on doit emmener son enfant au centre de dépistage à chaque fois qu'il y a des légers symptômes, ça fait même une grande perte de journée de travail pour beaucoup de monde. Et au final, ça peut devenir assez lourd quand même pour les parents de devoir à régulièrement s'absenter d'une demi-journée, voire d'une journée complète du travail. Et personne ne sort vraiment gagnant de ça non plus. Donc moi, j'ai l'impression que les tests rapides, c'est vraiment quelque chose qu'on a été assez réticents à utiliser au Québec. Et pourtant, ça a quand même un assez fort potentiel de lutte lutte contre la pandémie quand on y pense. Parce que au final, en plus, comme pratiquement tous les secteurs d'activité au Québec à l'heure actuelle sont déconfinés, il y a d'autres virus saisonniers respiratoires qui recommencent à circuler. Tous les virus qui vont causer le rhume, par exemple, ou le virus de la grippe également, eux aussi, ils circulent. Et ça peut souvent être des symptômes qui vont beaucoup ressembler à la COVID. Donc au final, permettre à des gens de se dépister eux-mêmes, que ce soit à l'école ou même dans plusieurs pays d'Europe, je ne sais pas si tu étais au courant, Guillaume, mais c'est possible de se procurer des tests de dépistage rapide en pharmacie, à l'épicerie et de les faire chez soi.
Ah ben, coudon. Ah ben, coudon. Non, je dois avouer que j'étais absolument pas au courant. Ça pourrait effectivement, si c'était implanté au Québec, être une solution potentielle, mais pour ça, il faudrait qu'on en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Mais encore une fois, le gouvernement fédéral, on a commandé plusieurs millions de tests rapides et il y en a une bonne partie. Le Québec, évidemment, a reçu sa part du gâteau, mais le Québec a toujours été très réticent à permettre à la population de se tester elle-même. Donc, alors que beaucoup de spécialistes en santé publique considèrent que c'est un moyen de responsabiliser les gens dans la lutte contre la pandémie, de dire, ben voici, si vous avez des symptômes, mais que vous voulez sortir, vous avez besoin d'aller au travail ou que vous avez une activité prévue avec des amis puis que vous avez un petit mal de gorge, ben testez-vous vous-même avant d'y aller. Comme ça, on s'assure que les gens vont pas... Les gens, au final, c'est beaucoup plus commode de se donner soi-même un test de dépistage plutôt que de prendre rendez-vous au centre de dépistage, d'y aller, de revenir et d'attendre le résultat.
Effectivement. Peut-être que si on avait des tests de dépistage disponibles pour tout le monde avec des résultats en 20 minutes, il y aurait beaucoup moins de files d'attente dans les centres de dépistage. Et peut-être qu'en fait, en ce moment, beaucoup de gens qui, en ce moment, ne vont pas aller se faire dépister iraient justement avoir ces données-là.
Effectivement, puis si on regarde tous les sondages qui ont été réalisés par l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique du Québec, eh bien, c'était majoritaire, la majorité des personnes qui avaient des symptômes pouvant être associés à la COVID n'allaient pas se faire dépister. Donc, on peut se dire que peut-être que c'est en lien avec les inconvénients justement reliés au dépistage.
Effectivement, parlant d'inconvénients, on va parler du système de la santé. On sait justement, on en parlait, que le ministre Christian Dubé a reculé sur sa demande d'imposer la vaccination obligatoire dans le système de santé. Et pour une simple et bonne raison, il ne peut pas se passer des infirmiers, des infirmières non vaccinés. On est en pénurie de main-d'œuvre grave présentement dans le système de santé. Il manque de monde. Et une des solutions qui ont été proposé, c'est d'aller chercher des infirmiers, des infirmières qualifiés à l'étranger, des infirmiers, des infirmières formés à l'étranger. Et c'est un reportage de Lisa Marie Gervais et Sarah Champagne dans Le Devoir. Il y aurait une volonté de recruter au moins 3500 infirmières formées à l'étranger. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On parle d'environ 5 à 7 % du système de santé au complet, ce qui est quand même vraiment énorme. Donc, c'est comparable, en fait, au nombre de gens qui n'ont pas encore été vaccinés dans le système de santé. Donc, c'est essentiellement une espèce de remplacement pour tenter d'avoir une autre source de main-d'œuvre qui puisse aider. On sait que le temps supplémentaire obligatoire qui fait beaucoup réagir les syndicats, qui fait beaucoup réagir les milieux de travail.
Mmh. Puis au final, on sait que le recrutement massif de nouveaux personnels dans le système, l'objectif, c'était éventuellement d'en finir avec le temps supplémentaire obligatoire.
Ben oui, c'est ça. Ce TSO, ce temps supplémentaire obligatoire-là, il est en place parce qu'on manque de monde, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de bris de service, mais on n'a pas assez de gens pour assurer du service complet à tout le monde. Et donc, on veut faire venir 3500 infirmiers, infirmières, sauf que après ça, le problème, c'est que le système pour venir au Québec, il est excessivement complexe.
Ben oui, parce qu'il faut avoir, et il faut bien sûr être accepté comme résident permanent par le Canada, mais il faut aussi le certificat québécois, certificat de sélection du Québec, si ma mémoire est bonne, qui doit montrer qu'on est accepté comme résident au Québec.
Effectivement, et ce certificat-là, il est particulièrement difficile à obtenir, non seulement à cause de dédales administratifs qui demandent plusieurs mois, parfois des années avant de recevoir des réponses, mais également parce qu'il faut être capable de réussir un test de langue française administré par l'Office québécois de la langue française. Selon les informations obtenues par Le Devoir, dans la dernière année, 60% des immigrantes et immigrants qui ont tenté de passer ce test l'ont échoué. À 60% de taux d'échec, on s'entend, c'est énorme.
Tout à fait.
Et donc, ces 3500 infirmières, infirmiers qui devraient venir soulager le système de santé, le réseau de la santé, ce serait peut-être pas la panacée que tenterait de nous vendre le gouvernement du Québec, parce que ben s'ils sont pas capables de venir immigrer, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir venir? Est-ce qu'on va être capable de les faire rester? C'est ça la grosse question.
Et d'autant plus que, ben, avec le gouvernement Legault, on sait, il y a souvent eu des projets de réforme de l'immigration. Et entre autres, on voulait justement resserrer un peu les critères de sélection des immigrants que le Québec acceptait aussi.
Oui, ça faisait partie de ses grandes promesses électorales de diminuer le nombre d'immigrants au Québec, en disant le Québec n'a pas la capacité d'absorption de ces immigrants, de ces immigrants-là. Mais après ça, ben, il se ramasse un petit peu coincé en disant ben, je manque de monde aussi, je manque de monde, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'en vas chercher du monde ailleurs.
Mm-hmm.
Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là avec une très, très, très grande attention parce que c'est sûr que c'est pas terminé. Je vous conseille fortement la lecture de l'article de Madame Gervais et Madame Champagne dans Le Devoir, parce que ça détaille en effet, dans le sens le parcours du combattant de ces infirmières formées à l'étranger. On va terminer notre segment sur la COVID-19 par un article de l'agence France-Presse relayé par les coops de l'information. Selon un sondage, protéger l'économie est plus important que combattre la COVID pour des résidents européens, mais également aux États-Unis et au Japon. Donc, on a 6000 personnes dans plusieurs pays. Et ce qu'on se rend compte...
C'est un sondage international, dans le fond.
C'est un sondage international. Et ce qu'on se rend compte, c'est que il y a le même sondage avait été fait il y a de cela quelques mois. On disait il y a quelques mois, non, la priorité, ça doit être la protection des vies humaines. La priorité, ça doit être la protection contre la COVID-19. Eh bien, cette majorité-là, elle est devenue essentiellement une égalité statistique. Autant de gens pensent qu'il faut prioriser la relance économique que de gens qui pensent qu'il faut prioriser la lutte contre la pandémie.
Et au final, ça montre un peu qu'il y a une fatigue générale qu'on sent dans les populations vis-à-vis des mesures de restrictions sanitaires. Puis on se rappelle, tu sais, les mesures de distanciation sociale, c'est des mesures qui sont très efficaces sur le court terme pour limiter la propagation de la COVID-19. Mais sur le long terme, c'est difficilement viable de continuer d'appliquer non seulement des mesures qui vont restreindre la socialisation des gens, mais aussi des mesures qui vont restreindre l'activité économique.
Effectivement, parce que ça vient beaucoup enfreindre la qualité de vie des gens. Et c'est essentiellement ça qu'on essaye de protéger en assurant une santé globale. pour faire un petit shout-out à Ta Santé, une excellente émission sur nos ondes ici à Chez 94.3. C'est sûr que si on enfreint trop longtemps sur la qualité de vie, ça va peut-être être un peu plus néfaste. Et c'est ça qui est débattable, surtout quand on sait que la plupart des cas présentement sont des cas qui sont dus à des personnes non vaccinées. Et c'est pas parce qu'on manque de doses de vaccins. Et ce que le sondage montre, c'est également qu'il y a une aggravation de la fracture entre ces populations vaccinées et les populations non vaccinées. 34 % des Allemands et 33 % des Suédois se disent prêts à couper des ponts avec des amis non vaccinés, à dire, ben, s'ils décident, s'ils choisissent de ne plus être vaccinés, tant pis, je ne les verrai plus. C'est leur décision. Les Américains disent à 58 %, une majorité absolue, se disent prêts à ne plus se rendre dans les régions de leur pays où le taux de vaccination est faible.
Ça, on voit que la polarisation au sujet de la vaccination aux États-Unis, c'est tellement impressionnant. Je veux dire, ça, c'est rendu une question politique entre... C'est carrément un statement de si vous êtes démocrate, vous vous faites vacciner. Si vous êtes républicain, vous vous faites pas vacciner. C'en est rendu à un niveau de polarisation vraiment extrême aux États-Unis, dans le fond. Mais ce qui est intéressant avec les sondages que tu nous dis, Guillaume, c'est on voit vraiment l'espèce de... l'état d'esprit de la société face à la pandémie, la vaccination, les restrictions. On voit aussi... c'est vraiment très intéressant des sondages de ce type et de faire des comparaisons internationales aussi.
Oui, effectivement, parce qu'on est capable, avec ce sondage, justement, d'essayer de comparer entre l'Europe, le Japon, les États-Unis. Donc, vraiment très, très intéressant. Je vous encourage fortement à aller lire l'article complet dans Le Soleil. On va passer maintenant en économie, parce qu'on a un petit trio d'articles fort, fort, fort intéressants. Tout d'abord, forte hausse du prix de l'essence à Montréal, selon des informations de la presse canadienne. La plupart des stations d'essence de Montréal, de Laval et de la Montérégie réclamaient 1,56 pour un litre d'essence ordinaire. Le prix moyen du litre ordinaire pour l'ensemble du Québec était établi à un peu moins de 1,53. On s'entend.
Disons, ça n'arrête pas de monter, le prix de l'essence, ces temps-ci.
Oui, ça n'arrête pas de monter. À Québec, c'est un record. Le prix de l'essence au Québec, à Québec, en fait, à la ville de Québec, n'a jamais été plus supérieur à... 1,53 et 4 dixièmes de cent. Et on s'approche dangereusement de ce prix-là. Donc, c'est vraiment une forte hausse du prix de l'essence. Ça coûte de plus en plus cher. Hydro-Québec compte augmenter ses tarifs de 2,65 % par rapport à l'an dernier. Donc, une hausse de 2,65 % chez Hydro, c'est la plus forte hausse des tarifs d'électricité depuis 2015, donc depuis 7 ans, ce qui est quand même très, très grand. Donc, qu'est-ce qui explique cette hausse des prix à la consommation-là, cette hausse très, très importante? On a une piste de réflexion de la part, dans un article de Mathieu Gobeil de Radio-Canada Info. Essentiellement, on a affaire à un choc de la demande. Je vais sortir mes mots d'économiste du dimanche. Là, on va essayer d'expliquer ça rapidement. Mais essentiellement, au début de la COVID a commencé en Chine. Ça a commencé à se propager en Chine.
Donc, on se rappelle, il y a plein d'usines de ports qui ont été fermées en Chine à cause de ça.
Oui, donc on avait des problèmes en Chine d'approvisionnement. On ne pouvait plus faire partir les bateaux de Chine. Et après ça, 6 mois, 1 an plus tard, quand la Chine était rendue un peu plus correcte et capable de repartir, de recommencer à fonctionner, ben c'était les ports d'arrivée aux États-Unis, en Europe, qui, eux, étaient fermés.
Parce que la demande n'était plus là avec la pandémie.
Ben, non seulement parce que la demande n'était plus là, mais également parce qu'il y avait beaucoup de commerces non essentiels qui étaient fermés, d'usines non essentielles qui étaient fermées. Et également, plusieurs de ces usines-là étaient des foyers de contagion de la COVID-19.
Effectivement. Puis en plus, on s'en rappelle, il y a eu d'autres événements qui ne sont pas reliés à la COVID, mais qui sont arrivés aussi l'an dernier. On se rappelle, entre autres, le fameux cas du bateau qui avait bouché le canal de Suez pendant 10 jours. Et le canal de Suez, c'est toujours une voie commerciale internationale qui est très importante. Et les répercussions économiques de ça, elles se font encore sentir.
Oui, effectivement, parce que tous ces facteurs-là, on peut penser également aux feux de forêt dans l'Ouest canadien qui ont grandement ralenti le transport de trains de marchandises entre l'Ouest et l'Est du continent. Eh bien, tout ça, ce que ça a fait, c'est que ça a grandement chamboulé un système économique, un système d'approvisionnement qui est internationalisé, qui est mondialisé depuis les années 80 et qui est essentiellement basé sur la philosophie du juste à temps. Alors, en se disant, ben, c'est moins cher, on a moins besoin d'entrepôts, on a moins besoin de main-d'œuvre, on a moins besoin de manutention. Si la pièce pour l'assemblage, particulièrement dans le secteur automobile, arrive exactement au bon moment, arrive exactement au moment où est-ce qu'elle a besoin d'être assemblée. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup de gestion. Ça demande également beaucoup de coordination internationale parce qu'on va faire chacune des pièces à l'endroit où est-ce que c'est le moins cher de le produire sur la planète. Et après ça, on va les assembler en même temps, juste à temps, juste pour être capable d'être livré au consommateur à la dernière seconde.
Et au final, ce qu'on avait vu, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, Guillaume, mais au début de la pandémie, on blâmait beaucoup aussi le fait que les pays avaient perdu leur capacité de production nationale au moment où tout le monde se garrochait sur les masques chirurgicaux, sur les équipements de protection et éventuellement sur les vaccins. On s'est rendu compte qu'au final, délocaliser la production industrielle à l'étranger, oui, ça, du point de vue des coûts, c'était avantageux, mais dans certaines situations, ça pouvait se révéler être un fardeau plus qu'autre chose.
Ben, en fait, c'est ça. C'est toute cette chaîne d'approvisionnement que je décris, elle est particulièrement fragile. Oui, elle est efficace. Oui, elle permet d'avoir des produits à moindre coût, produire toujours plus, produire pour toujours moins cher.
Et toujours plus rapidement aussi.
Et toujours plus rapidement, mais ça, cette chaîne d'approvisionnement-là, elle dépend d'un monde en paix. Elle dépend également d'un monde
stable, on pourrait
stable
dire.
Et qui n'a aucun problème, que ce soit écologiquement ou sanitairement parlant. Donc, n'importe quelle crise, n'importe quel choc peut avoir des effets dévastateurs. Et là, on parle, si on compare le prix du transport d'un conteneur de la Chine vers l'Amérique du Nord en dollars américains depuis le début de la pandémie. Au début de la pandémie, ça coûtait 3 000 $ de shipper un container complet. Aujourd'hui, à l'automne 2021, on parle de 25 000 $ US.
C'est impressionnant, impressionnant.
Donc, les prix de transport ont été multipliés par 8. C'est très gros, c'est très, très gros. Et ça explique, en fait, cette espèce de mini-pénurie. Il y a des pénuries dans plusieurs secteurs. Je sais pas si t'es allé chez IKEA récemment. J'ai déménagé cet été, donc j'ai fait une coupe de run. Il y a plusieurs de leurs meubles, de leurs biens qui ne sont pas disponibles parce qu'il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.
Mais aussi, on a vu que le coût du bois d'œuvre a vraiment explosé par rapport à l'année dernière aussi.
Oui, également. Et ça n'a aucun lien. C'est un autre facteur qui fait juste aggraver la chose.
Mais autre chose que j'ai remarqué, moi aussi, c'est que de plus en plus, on se remet à parler d'un terme économique qui était largement oublié depuis les 30 dernières années. On se met à beaucoup parler d'inflation en Occident, alors que dans les dernières années, on arrivait toujours à maintenir l'inflation à des taux très, très bas par rapport à ce que ça avait été dans les années 70, dans les années 80. Mais là, j'ai l'impression, est-ce qu'on est dans une nouvelle poussée inflationniste à cause de ce qui se passe en ce moment?
Ben, ça se peut. Ça se peut essentiellement parce que les gens, pendant la pandémie, sont beaucoup restés chez eux. Ils ont moins dépensé en sortie, ils ont moins dépensé en vêtements. On sait que le Québécois moyen dépense 60 kg, achète pour 60 kg de vêtements par année, ce qui est absolument débile, on va se le dire. Mais durant la pandémie, ça a été beaucoup moins grand. Et surtout, la plupart des pays occidentaux ont également reçu de l'aide de la part de leur gouvernement, de l'aide directe du gouvernement vers les citoyens. On peut penser à la PCU, la PCRE, d'autres programmes de ce genre dans différents pays. Donc, ces gens-là qui sont restés avec peu de dépenses pendant très longtemps et maintenant on déconfine, les gens ressortent, les gens redépensent à la pelletée. Et donc, il y a de plus en plus de demandes. On augmente la demande, on baisse l'offre parce que les coûts de transport explosent. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on se ramasse avec un prix qui augmente substantiellement. Donc, oui, il va y avoir probablement une augmentation de l'inflation. Et comment est-ce qu'on va être capable de contrôler cette demande, cette augmentation de l'inflation? C'est pas encore très clair. C'est parce que les outils qu'on utilise normalement pour faire baisser l'inflation sont des outils qui pourraient être néfastes, par exemple, dans la crise du logement présentement.
Oui, effectivement, parce que dans les années 80, pour diminuer l'inflation, on avait beaucoup augmenté les taux d'intérêt, puis au final, ça avait énormément augmenté l'endettement des gens. Des centaines d'entreprises avaient dû fermer leurs portes à cause de ça aussi.
Oui, effectivement, on sait que présentement, beaucoup de gens ont de la misère à accéder à la propriété. Ça va juste empirer. On se rappelle qu'il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière qui disait que les prix des maisons dans le Grand Montréal étaient rendus à $500,000 en moyenne, une augmentation à travers le Canada de plus de 20% en une année du prix du marché immobilier. C'est énorme. Donc, si on augmente les taux d'intérêt, ben, on fait juste priver plusieurs familles à moins hauts revenus d'accès à la propriété et on va loader les cartes de crédit de tout le monde alors qu'on est déjà
En un taux d'endettement personnel qui est extrêmement élevé au Canada.
Donc, qu'est-ce que ça va faire? Comment est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? C'est pas encore très clair, mais c'est sûr que d'avoir tout ça en tête, ça permet peut-être de mieux comprendre le sondage dont on parlait tout à l'heure, où est-ce que les gens disaient il faut prioriser la reprise économique parce qu'on sent que la crise économique, elle s'en vient et elle va nous frapper de plein fouet d'ici peu. Sur ces nouvelles un petit peu alarmistes, on va aller prendre une petite pause publicitaire et musicale et on va revenir après avec des nouvelles plus politiques. On va aller parler de péréquation en Alberta. Vous écoutez toujours Un phare dans le midi avec Guillaume Bédard et Félix Étienne sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à La Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Toi qui pensais à lui, mais je t'en veux pas pour ça. J'aurais dû te garder, mais j'ai compris. Et tu étais trop loin déjà. J'aurais fait la même chose si j'étais toi. J'ai pensé avoir l'air fort, faire comme si nous deux c'était rien. Si tu me voyais brailler au bord, tu comprendrais que je vais pas bien. J'ai voulu mourir, mais j'ai pas le droit. Ah, tu me connais. Tu me connais trop bien, tu me connais trop bien. Mais nous deux c'était pas rien, nous deux c'était pas rien, nous deux c'était pas rien. Ah, tu me connais trop bien, tu me connais trop bien, tu me connais trop bien. Nous deux c'était pas rien, nous deux c'était pas rien, nous deux c'était pas rien. J'ai marché aussi longtemps que je pouvais sans me retourner. Je voulais pas te voir sourire sans moi. Je sais que t'aurais fait la même chose si t'étais moi. T'aurais fait la même chose si t'étais moi.
j'ai pensé avoir l'air fort, faire comme si nous deux c'était rien. Si tu me voyais broyer au bord, tu comprendrais que je vais pas bien. J'ai voulu mourir, mais j'ai pas le droit. Ah, tu me connais trop bien, tu me connais trop bien, tu me connais trop bien. Et nous deux c'était pas rien, nous deux c'était pas rien, nous deux c'était pas rien. Ah, tu me connais trop bien, tu me connais trop bien, tu me connais trop bien.
Toujours un phare dans le midi avec Guillaume Bédard et Félix Etienne sur les ondes de Chiz 94.3. Félix, on va parler de péréquation en Alberta parce que aujourd'hui même se tient un référendum sur la question. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon de qu'est-ce qui se passe avec ça exactement?
Donc, qu'est-ce qui se passe? On sait que la péréquation, d'abord, c'est quoi? C'est un programme qui est géré par le gouvernement fédéral et qui vise à équilibrer les revenus entre les différentes provinces. Donc, s'assurer que toutes les provinces du Canada aient la capacité d'offrir le même, aient la capacité théorique, c'était très important de le préciser, d'offrir le même type de service public à leurs concitoyens. Et à ce moment-là, certaines provinces ne reçoivent pas de paiement de péréquation, d'autres provinces en reçoivent. Le Québec, on en reçoit, mais comme le Québec, c'est la province la plus peuplée qui reçoit de la péréquation, le Québec reçoit un montant brut de péréquation très élevé. On parle d'environ 8 milliards de dollars par année sur le budget du Québec.
Le budget du Québec qui est de 100 milliards de dollars par année, pour vous donner un espèce d'approximatif, d'échelle.
Oui, donc c'est ça. On voit que c'est pas si important que ça dans le budget du Québec, mais ça existe. La province de l'Alberta, elle, ne reçoit pas de péréquation. Et du côté de l'Alberta, en fait, il y a un grand sentiment d'injustice qui est exploité beaucoup par le gouvernement albertain en ce moment. L'Alberta, on sait, avec la baisse des prix du pétrole, l'Alberta vit une crise économique assez importante. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement conservateur de l'Alberta, qui est dirigé par Jason Kenney, on dit que, au final, on dit que c'est les contribuables albertains, ça n'a pas d'allure, on paye pour que le Québec offre des services publics à sa population, puis le Québec se permet de refuser de passage de pipeline, d'oléoduc, de gazoduc sur son territoire.
Donc, mais est-ce que c'est vrai, ça, que les Albertains paient la péréquation du Québec?
En fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça, parce que la péréquation, c'est pas de l'argent qui est pris au gouvernement de l'Alberta pour être envoyé au gouvernement du Québec. C'est pris à même le budget du gouvernement fédéral. Donc, au final, oui, les Albertains payent le programme de péréquation, mais les Québécois aussi, on paye la péréquation. Les impôts que toi et moi, on paye à chaque année, la TPS également, c'est tout de l'argent qui s'en va à alimenter le budget de la péréquation. Donc oui, le Québec, on reçoit 8 milliards de dollars par année. Donc on est la province qui perçoit le plus de péréquation. Mais comme on est la deuxième province la plus peuplée au Canada, le Québec, c'est aussi le deuxième plus gros contributeur à la caisse de la péréquation.
Effectivement.
Donc, c'est de l'argent qu'on envoie à Ottawa, qu'on se fait redonner au final.
C'est ça. Fait qu'on ne se fait pas tant donner de l'argent avec la péréquation qu'on se le fait rembourser.
Effectivement. Mais l'Alberta ne reçoit pas ce remboursement, si on peut le dire ainsi. Mais c'est assez complexe, cette situation-là, la péréquation. Et selon beaucoup d'experts, en fait, si le Québec offre plus de services publics à sa population que l'Alberta, c'est parce que les Québécois payent plus de taxes et d'impôts. Au final, l'Alberta, je dois te rappeler, Guillaume, l'Alberta n'a même pas de taxe de vente provinciale.
Oui, c'est la seule province au Canada à ne pas avoir de taxe de vente provinciale. Donc, ils ont juste la TPS. Il n'y a pas l'équivalent de la TVQ
effectivement,
en Alberta.
Et pour revenir à notre référendum, justement, le gouvernement de Jason Kenney, justement, propose un référendum. Et la question référendaire, c'est est-ce que l'article 36, paragraphe 2 de la Constitution de 1982, donc l'article sur la péréquation, devrait être retiré de la Constitution canadienne. Donc ça, c'est assez touché parce que c'est un référendum qui a une portée essentiellement symbolique, dans le sens que si le oui remporte le référendum, et selon la plupart des sondages qui ont été menés, c'est ce qui devrait arriver, il n'y a pas vraiment de surprise à avoir là-dessus, eh bien, ça ne va strictement rien changer sur le plan légal. Qu'est-ce qui devrait se passer? Ça, c'est une chronique selon l'analyse d'Antoine Robitaille, donc journaliste politique bien connu. Si le oui remporte le référendum, eh bien, le Parlement, l'Assemblée législative de l'Alberta, adopterait une résolution pour simplement dire reconnaître le résultat du référendum. Mais le problème, c'est que ce référendum-là, les référendums au Canada, ce n'est pas contraignant. Légalement, le gouvernement n'est pas obligé de tenir compte du référendum. Et on le sait très bien, pour modifier la Constitution du Canada, ça prend l'appui de 7 provinces sur 10 représentant 50% de la population canadienne. Or, la seule autre province en ce moment qui voudrait suivre l'Alberta dans cette volonté d'abolir le programme de péréquation, c'est la Saskatchewan.
Qui, on se le rappelle, ne représente pas 50% de la population canadienne.
Et c'est seulement deux provinces. Si on sait faire des maths, encore une fois, c'est seulement les provinces qui ne reçoivent pas de péréquation, c'est Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan. Terre-Neuve, aux dernières nouvelles, je ne sais pas s'ils en recevaient ou pas.
De mémoire, oui.
Donc au final, on a seulement trois provinces qui ne reçoivent pas de péréquation et la Colombie-Britannique est dirigée par un gouvernement néo-démocrate, donc je ne crois pas que le gouvernement de la Colombie-Britannique est engagé dans cette voie-là.
Mais l'Ontario reçoit de la péréquation?
Oui, l'Ontario a commencé à recevoir de la péréquation, mais à une proportion moindre que le Québec, par exemple.
Bon.
Mais justement, pour revenir à la question, selon Antoine Robitaille, ce que ferait le gouvernement de Jason Kenney, c'est d'invoquer le renvoi de la Cour suprême sur la sécession du Québec. Ça, c'est un jugement qui est sorti en 1998 qui dit que, en cas de référendum, donc, avec une victoire du oui, avec une question claire et majorité claire, qui porte sur la question de la séparation, ce jugement-là dit que le gouvernement fédéral a l'obligation morale de négocier. Mais à ce moment-là, le gouvernement Kenney veut se baser sur ce jugement-là pour dire, comme le oui va remporter, supposons que le oui remporte le référendum, eh bien, on dit, le gouvernement fédéral aurait l'obligation de négocier de bonne foi sur la question, mais est-ce que ça va vraiment se faire? Et concrètement, quel changement pourrait avoir lieu? Là, on est vraiment dans le domaine de l'imprévisible sur cette question-là.
Oui, effectivement, parce qu'on s'entend que si le gouvernement fédéral décide de rouvrir la Constitution, il va y en avoir un ou deux qui vont demander leur part du gâteau constitutionnel, à commencer par les Premières Nations. On s'entend que si elles faisaient déjà des demandes lors des négociations constitutionnelles des années 80, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en termes de démarches de vérité et réconciliation, ça va devoir changer un petit peu
et
quand même.
Également, il y aura les revendications historiques du Québec qui pourraient très bien revenir sur la table à ce moment-là. Et puis, justement, qu'est-ce que le référendum changerait? Bien là, il y a beaucoup... Les juristes ne s'entendent pas sur la question. Du côté du gouvernement albertain et des juristes qui sont favorables au gouvernement, si le oui remporte le référendum en Alberta, eh bien, le gouvernement fédéral serait obligé de convoquer une conférence constitutionnelle. Mais selon d'autres juristes, en fait, ce référendum-là est essentiellement symbolique et il n'y aurait pas d'obligation morale de négocier parce qu'il ne porte pas sur la sécession de l'Alberta. Il porte sur un changement de la Constitution, mais pas sur la séparation. Donc, dans tous les cas, on aura des grands débats devant les tribunaux avant de voir s'il y aura conférence constitutionnelle ou pas.
Effectivement. Et est-ce que ça pourrait potentiellement mener à une augmentation du mouvement sécessionniste albertain?
Ça, c'est très difficile à dire. Encore une fois, dans ce moment, dans les sondages prévoient une victoire du oui au référendum. Mais par contre, le gouvernement de Jason Kenney, c'est le gouvernement le plus impopulaire au Canada avec la gestion assez calamiteuse de la quatrième vague de la COVID-19. Eh bien, la popularité du gouvernement Kenney est au plus bas en ce moment. Donc, Jason Kenney s'est pas trop mêlé. Il a été très discret dans la campagne du référendum et il tente de présenter la question. Il dit que c'est pas un enjeu qui est partisan. Il dit que c'est un enjeu qui devrait réunir tous les Albertains et Albertaines, peu importe leurs allégeances politiques. On comprend, il veut gagner son référendum, donc il va se détacher de l'option du oui pour ne pas plomber le camp de Jouy par sa seule présence dans le paysage politique.
Effectivement, ce qui veut dire qu'il n'y a présentement pas vraiment de camp du oui ou de camp du non qui soit organisé en Alberta.
Effectivement, la campagne référendaire a été très, très, très discrète, on pourrait dire, sur cette question-là.
Donc, on va continuer à suivre ça avec une grande attention. C'est sûr qu'on vous en parle dès demain pour avoir les résultats. On va voir, on va suivre ça avec une très grande attention. Ici, à Un Fort dans le Midi, sur les ondes de Chiz 94.3, on va se déplacer rapidement en nouvelles internationales et on va terminer notre émission avec le segment municipal parce que on est en élection municipale et aussi on est une radio locale et c'est super intéressant. Donc, en nouvelles international, la Chine dément avoir lancé un nouveau missile hypersonique. C'est des informations de l'agence France-Presse. Essentiellement, il y a eu un bolide qui a été détecté comme sortant de la Chine et utilisant l'orbite terrestre pour se déplacer, pour aller atterrir ailleurs. Ça pourrait être un de nouveaux missiles incroyablement puissant, incroyablement rapide, incroyablement imprévisible également de la part de la Chine s'il était capable d'atteindre sa cible après être passé par l'espace. Mais la Chine, elle, dément qu'il s'agisse d'un missile. Elle dit qu'il s'agissait d'un test de routine d'un véhicule spatial destiné à tester la technologie de véhicule spatial réutilisable.
Définitivement, dans tous les cas, ça montre que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment une ambiance de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, plutôt qu'avec la Russie, vraiment le grand rival géopolitique et scientifique de l'Occident au 21e siècle, ça semble être la Chine.
Effectivement, même si la Chine ne semble pas particulièrement prête à pointer ses canons sur qui que ce soit, elle dit vraiment, ben non, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de faire du commerce, c'est d'être des partenaires économiques importants, et aussi tant qu'à être allé dans l'espace parce qu'on est cool. Donc, ça semble être ça, vraiment, l'opinion de la Chine. On va voir s'il y a d'autres nouvelles qui vont sortir à ce sujet. On se souvient que la Chine avait comme projet d'envoyer des robots sur la Lune et potentiellement d'être une des premières nations à envoyer quelqu'un sur Mars. En nouvelles internationales, Félix, tu avais regardé ça rapidement pour nous. Un ancien secrétaire d'État des États-Unis est mort aujourd'hui.
Oui, effectivement, c'est Colin Powell, donc celui qui a... Colin Powell il avait fait le discours aux Nations Unies en disant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Eh bien...
Ah, oh, c'était lui!
Oui, c'est M. Powell. Eh bien, Colin Powell est décédé de la COVID-19. Donc, toutes nos sympathies à sa famille. Et en fait, M. Powell était doublement vacciné, mais par contre, il était atteint d'un cancer du sang. Un cancer qui attaque très gravement le système immunitaire. Donc, même si... Donc, on peut dire que M. Powell était une personne qui était, de son état de santé, il avait une santé très fragile. Donc, c'est pourquoi il est décédé de la maladie.
Effectivement, écoute, on va se déplacer de l'international au très, très, très local. On va aller parler de la Maison Chevalier à Québec, qui est une maison historique sur la place Jacques-Cartier à Québec, dans le Vieux-Québec, pas loin du Petit-Champlain.
La place Royale, oui.
Oui, excusez, la place Royale qui appartenait au Musée de la civilisation du Québec, qui a été cédée par le gouvernement du Québec, par le ministère de la Culture, au groupe Tanguay. Et il y a une forte opposition qui s'organise de la part du milieu culturel, du milieu muséal, du milieu des historiens du Québec. Félix, t'étudies en histoire, oui. Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en rappelle, le gouvernement du Québec s'est départi de la Maison Chevalier. La Maison Chevalier, c'est un bâtiment qui date du 17e siècle, donc qui date du régime français. Et ce bâtiment-là était utilisé pour plusieurs expositions, en fait. Le bâtiment était accessible au public et les caves avec les voûtes, c'est franchement très impressionnant comme endroit. Le musée de la civilisation, justement, qui est également situé dans le Vieux-Québec, dans le secteur du Petit-Champlain, se servait beaucoup de cette maison-là, justement, pour des expositions. Et justement, ce musée, le prétexte du gouvernement présenté par le musée de la civilisation, c'était que le bâtiment était trop désuet. On disait justement que ça ne permettait plus d'héberger des expositions et que les personnes à mobilité réduite n'y avaient pas accès. Or, par contre, comme tu disais, dans le milieu patrimonial, il y a une forte opposition à cette décision-là. C'est la Société historique de Québec qui a lancé la pétition. Mais parmi les signataires, il y a l'ancien conservateur du Musée du Québec, M. Michel Côté. Et selon Michel Côté, ça ne tient pas debout, cet argument-là. Il dit qu'il y a déjà eu plusieurs expositions qui ont été tenues dans la maison Chevalier. Et un autre enjeu qui est présent en filigrane avec ça, c'est les fameux espaces bleus, les musées régionaux que veut créer le gouvernement du Québec. Et selon les signataires de la pétition, au final, qui sont près de 200, eh bien, le gouvernement Legault accorde une très grande priorité à ouvrir des nouveaux musées. Mais par contre, on se départit d'un espace qui a une énorme valeur patrimoniale, effectivement.
Le musée de la civilisation, me semble, ça fait partie des premiers espaces bleus annoncés, non?
C'est assez complexe. Les espaces bleus, en fait, selon ce qui serait créé, ce serait un des espaces bleus qui va être ouvert à Québec. Il va être ouvert dans l'ancien séminaire, dans l'ancienne, la vieille université. Donc, les bâtiments qui regroupent aussi le petit séminaire de Québec, le séminaire de Québec et la faculté d'architecture de l'Université Laval. Or, entre autres, il y a un laboratoire d'archéologie qui a dû être délogé à cause de ça pour ouvrir les espaces bleus. Donc, au final,
c'est un petit peu contre-productif, non?
Effectivement. Et ça, c'est pour ça que les signataires de la pétition, justement, s'en prennent à la décision du gouvernement du Québec, au final, même si le gouvernement dit qu'il veut revaloriser le patrimoine bâti québécois, les installations qui existent déjà, elles sont complètement laissées à l'abandon et on cède ça à un groupe privé, justement. Donc, ce que les signataires de la lettre font valoir, c'est que avant de penser à ouvrir ces fameux espaces bleus, on devrait s'assurer de préserver les installations des musées et des espaces patrimoniaux qui sont déjà existants. Parmi les signataires de la lettre, entre autres, il y a l'ancienne ministre de la Culture, Agnès Maltais, ainsi que justement M. Michel Côté, qui était directeur du musée de la Civilisation. Donc c'est quand même beaucoup de poids assez lourd du milieu patrimonial qui sont vraiment mobilisés autour de cette question-là.
Effectivement. Madame Harel, qui avait d'ailleurs signé une lettre ouverte dans Le Devoir récemment en compagnie du chercheur David Carpentier à propos qui parlait justement de la langue française à Montréal et du fait qu'il fallait agir sur le dossier de la langue française à Montréal. C'est sûr qu'on en entend beaucoup parler présentement dans cette campagne municipale-là à Montréal du dossier de la langue française, non seulement à cause du projet de loi 96 à Québec, mais également à cause du troisième candidat à la mairie de Montréal, M. Balamara Olness, qui demande à ce que la ville de Montréal devienne une ville bilingue. Donc, Mme Harel vraiment fait un espèce de semi-retour en politique en tant que belle-mère. Elle parle de ce dossier-là à Montréal, du dossier de la langue française à Montréal. Elle vient défendre cette maison-là, la maison Chevalier à Québec. Il y a d'ailleurs sur le dossier de la langue française un excellent éditorial de Brian Miles dans Le Devoir qui dit « Le bilinguisme n'est pas une option ». Je vous encourage fortement à aller le lire. Plus proche de chez nous, à Québec, en termes de campagne municipale, on a Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, qui veut reconvertir l'espace 400e en marché et en centre d'art. C'est une annonce qui a été relayée par Stéphanie Martin dans le journal de Québec, le journal de Montréal. On se souvient que M. Gosselin avait accusé M. Labaume d'avoir délaissé le Vieux-Québec, que la fermeture du Vieux-Marché de Québec, c'était une mauvaise idée pour lui. Donc, cette reconversion de l'espace 400e serait une manière de revitaliser le quartier. On sait que dans Cap-au-Diamant, c'est un des grands, grands, grands enjeux. Comment faire pour attirer des gens dans le Vieux-Québec et comment faire pour que les gens dans le Vieux-Québec restent là.
Et justement, les candidats et candidates dans le district de Cap-au-Diamant, qui regroupent entre autres le Vieux-Québec, se positionnent sur la question. Et les candidats et candidates des cinq principaux partis ont vraiment fait valoir. Pas mal tout le monde a l'air d'être d'accord pour justement réutiliser, réhabiliter les espaces du Vieux-Québec pour en faire des services de proximité pour la population. Donc que ce soit Québec Fort et Fier, Équipe Marie-Josée Savard ou Transition Québec, Démocratie Québec, j'ai oublié un des cinq partis, mais pas mal tous les candidats donc sont assez d'accord pour s'entendre sur des types de propositions. Donc, par exemple, M. Boufelja Ben Abdallah, candidat d'équipe Marie-José Savard, propose donc justement d'ouvrir un marché saisonnier dans le Vieux-Port. C'est également une proposition qui est partagée par, attendez un peu...
David Johnson de Démocratie Québec, entre autres. On a également Transition Québec qui a fait une annonce cette fin de semaine. On se souvient que la chef de Transition Québec, Jackie Smith, est une anglophone d'origine ontarienne, mais qui a immigré à Québec il y a de cela 15 ans. Et qui maintenant parle français et elle veut encourager plus de gens à Québec à parler français. Elle veut encourager l'immigration et elle veut, en fait, elle propose la mise sur pied d'une maison de la langue française pour accélérer la francisation.
Oui, pour ce faire, on propose également de relancer le réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique qui avait été mis sur pied par le maire Labeaume.
Pour en savoir plus sur les propositions des différents partis sur les différents enjeux, ben on a plusieurs débats qui s'en viennent cette semaine. On est très très choyé en termes de politique municipale à Québec cette année. On a un premier débat au Musée de la civilisation ce soir qui portera sur l'environnement. Il y a le débat de Radio-Canada mercredi soir. Et il y a notre propre débat ici même sur les ondes de Chiz 94.3 que vous pouvez aller voir en direct depuis la salle Hydro-Québec jeudi soir à partir de 19h30. Merci beaucoup, Félix, d'avoir été avec nous pour cette heure de radio.
Ça fait toujours plaisir.
Et merci à toi, cher public. On se revoit demain à midi pour un fort dans le midi, ton émission d'actualité quotidienne sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde? C'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, Les Architectes du son.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est Cain.
Cain? Hey boy, on est loin d'embarquer ma belle.
What?